Marie-Madeleine, qu'est-ce qui t'a poussée à te lever si tôt ce dimanche matin-là? Avant même que le soleil ne se lève, avant même que le temps du sabbat ne soit vraiment achevé, est-ce le chagrin qui t'a empêché de trouver le sommeil? Depuis le vendredi, tes émotions t'ont-elles ne serait-ce qu'un moment permis de prendre un peu de repos? Vous n'étiez plus très nombreux autour de lui à la fin. Tes amis et toi, c'est tout. Et les autres avaient déserté. Te sens-tu toi aussi abandonné? Déboussolé certainement, peut-être même déçu, voire amer d'avoir assisté à l'exécution cruelle de celui en qui tu avais placé de si grands espoirs. Que cherches-tu à accomplir encore? Te raccroches-tu au rite, comme on le fait quand tout semble s'écrouler autour de soi? Retrouver la sécurité du geste, des paroles, des signes que d'autres ont accomplis avant toi. T'inscrire dans le « on a toujours fait comme ça » qui donne quelques repères quand on navigue en eau trouble. Un dernier hommage à cet homme que tu as admiré, à cet ami. Ces derniers jours ont été odieux. Peut-être cherches-tu, au moins dans la mort, à lui rendre un peu de la dignité dont on l'a privé. Ce matin-là, Marie-Madeleine, il faisait encore nuit. Marie, mère de Jacques, qu'est-ce qui t'a poussée à te rendre au tombeau ce matin-là? Vendredi déjà, tu avais eu besoin de savoir où on déposerait son corps. C'était important pour toi. Discrètement, tu avais suivi Joseph d'Arimathée pour connaître le lieu de sépulture. Les suppliciés n'ont en général pas droit à de tels égards. On jette simplement leur corps à la fosse commune. Mais lui n'était pas comme les autres, et même si beaucoup avaient fui, il restait quelques individus qui tenaient à lui. Joseph en faisait partie. Mais tu avais bien vu qu'ils avaient dû se mettre à plusieurs pour rouler l'énorme pierre qui condamnait l'entrée. Une fois scellé, on ne rouvre pas un tombeau. Quelle idée de vouloir aller l'embaumer maintenant! Il est trop tard désormais. En chemin avec tes amis, tu ne te demandes même pas si vous réussirez à rouler la pierre, tu te demandes qui va le faire pour vous. Comme si tu espérais, contre toute espérance, que la Providence serait de votre côté cette fois-ci. Qu'attends-tu, Marie, de cette visite au tombeau? De faire face à la mort de Jésus? As-tu besoin de voir son corps sans vie pour que sa fin devienne réalité pour toi? Ce matin-là, Marie, tu t'es rendue jusqu'au tombeau. Salomé, qu'est-ce qui t'a pris d'entrer dans ce tombeau? Pourquoi n'as-tu pas pris tes jambes à ton cou en voyant que la pierre avait été roulée? Qui vous avait précédé? La tombe profanée? N'as-tu pas craint pour ta vie, toi, la disciple d'un homme dont les autorités avaient décidé d'éliminer celui-ci? Et si des ordres avaient été donnés pour qu'il n'y ait aucune sépulture connue? Et si on voulait éviter que ses partisans viennent s'y recueillir? Quelle force t'a mené à mener tes pas jusqu'au creux de cette cavité? Tu étais venu embaumer un mort, et voilà que la mort a déserté le tombeau. Tu t'étais préparé à trouver un corps sans vie, rigide, allongé. Et voilà que tu te retrouves nez à nez avec un jeune homme assis, vêtu de blanc. Tu t'attendais au silence, et voilà que tu reçois une parole. Tu croyais que c'était la fin, et si en fait, c'était un début. Ce matin-là, Salomé, tu as franchi le pas. Marie-Madeleine, Marie et Salomé, toutes trois ont osé, peut-être au-delà du raisonnable, espérer contre toute espérance. Levant les yeux, elles ont vu que la pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Le jeune homme en blanc, assis à l'endroit même où elles s'attendaient à trouver le corps de Jésus, les sort radicalement de tout ce qu'elles avaient imaginé, préparé et peut-être même appréhendé. Il les sort du silence par cette parole « Ne soyez pas effrayés ». Mais bien sûr que si, elles sont effrayées. Que pourrait-il y avoir de moins effrayant qu'un être, peut-être un ange, assis dans un tombeau vide? Cette parole n'a pas l'effet escompté. Le calme ne s'installe pas instantanément en elle, elle reste pétrie de peur. Ne soyez pas effrayés. Cette parole a une portée plus large. Elle est au cœur de l'annonce de la foi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur non plus de la vie. Ne te sens pas terrorisé si, à certains moments de ta vie, tu te trouves en très grande proximité avec Dieu, ou si d'autres fois tu le sens si éloigné de toi. N'aie pas peur de l'autre, n'aie pas peur de ton prochain, n'aie pas peur des défis, n'aie pas peur des échecs, n'aie pas peur de toi-même. Ne soyez pas effrayés, vous étiez dans la logique de la mort. Mais la mort n'est plus là, le tombeau est vide. En soi, ce vide ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il crée l'espace d'un autre possible. Ne soyez pas effrayés, dit le jeune homme, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix, il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Bien sûr, elle cherchait selon leur logique, mais il n'est pas là où elle croyait. Et il n'est pas non plus tout à fait celui qu'elle pensait. Il n'est pas ici, non, il n'est pas là où vous croyez. Et peut-être est-ce un peu provocateur de dire un matin de Pâques dans une église, mais il n'est pas impossible, mes chers, que nous devions nous aussi affirmer « il n'est pas ici ». Nous sommes venus à l'église un matin de Pâques parce que nous pensons d'une manière ou d'une autre y trouver Jésus. Et si le temple était aussi vide que le tombeau? Il n'est pas là où nous le cherchons. De même qu'il ne s'est pas laissé enfermer dans une tombe, de même il ne se laisse pas cloisonner dans nos rites, dans nos fêtes religieuses, dans nos liturgies, dans nos cultes, dans nos idées, dans nos théologies. Il ne se laisse pas réduire à l'espace de nos églises. Il est vivant et la vie ne se laisse jamais contenir. Il n'est pas ici, il vous précède en Galilée. Et qu'est-ce que la Galilée pour ces femmes? Qu'est-ce que la Galilée pour les disciples qui, quand bien même ils avaient abandonné Jésus dans ses derniers instants, ne sont pas rejetés par le Christ? Le ressuscité n'est pas rancunier. Au contraire, la vie nouvelle restaure les relations. La Galilée, c'est Jésus. C'est le lieu de leur enfance, les villages qui les ont vus grandir. C'est le lieu de leur héritage, du père, du grand-père pêcheur qui leur a tout appris des gestes justes pour que les filets soient pleins. La Galilée, c'est le lieu des amitiés fidèles, des rencontres, des mariages aussi. La Galilée, c'est leur lieu de vie. Et c'est là et nulle part ailleurs que le Christ ressuscité prévoit de les rencontrer. Pas à Jérusalem, et encore moins dans le pèlerinage au lieu d'une sépulture qu'il n'habite plus. Et vous, quel est votre Galilée? L'endroit dans lequel vous vous sentez chez vous, le Christ ressuscité, vous y précède. Alors j'aurais envie de vous dire de vous lever et de vous empresser d'aller le rejoindre. Mais nous allons rester encore un petit moment ensemble, au moins jusqu'à la fin du culte. Parce que peut-être qu'à l'enthousiasme qui nous pousserait à nous lever et aller à sa rencontre, se mêle tout de même un peu de crainte. Pour qui passerons-nous? Des fous? Oserons-nous proclamer haut et fort que le Christ est ressuscité? Ici, entre ces murs, ça va. Nous sommes dans l'espace sécurisé de l'église, ou serait-ce l'espace du tombeau? Mais dehors, auprès des personnes que nous côtoyons dans notre Galilée, passerons-nous pour des illuminés du matin de Pâques? La crainte, la peur, l'effroi ont muré les femmes dans le silence. Ainsi se termine l'Évangile, et pourtant cette parole a trouvé des failles pour s'ébruiter jusqu'à nos oreilles, jusqu'à notre cœur. Et si la pierre si lourde qui fermait le tombeau a été roulée, pourquoi tout ce qui mure dans le silence ne pourrait pas également faire place à l'ouverture? Le Christ est ressuscité. Il est vivant et vous vivez. Il n'est pas ici où vous le cherchez. Il vous précède dans votre vie. Amen.